Permettez-moi de tenter d'articuler clairement de quoi il s'agissait. Il planait là une odeur, et cette odeur rappelait subtilement et indubitablement celle qui nous avait assaillis lorsque nous avions ouvert la tombe démentielle de l'abomination que Lake avait disséquée. Bien sûr, à ce moment, cela ne nous a pas paru aussi clair qu'aujourd'hui. Il y avait plusieurs explications possibles et nous en avons beaucoup discuté à mi-voix. Nous avons finalement décidé de ne pas interrompre nos explorations, car maintenant que nous étions arrivés jusqu'ici, l'idée de rebrousser chemin nous répugnait à moins d'une catastrophe certaine. Et de toute façon, ce que nous avions sans doute soupçonné était tout simplement incroyable. De telles choses ne se produisent pas dans un monde normal. Ce n'est sans doute que l'instinct le plus irrationnel qui nous a poussés à diminuer le faisceau de notre lampe torche, ignorant désormais la tentation des sculptures sinistres et hallucinées qui nous menaçaient depuis les murs écrasants, et à ralentir notre allure jusqu'à nous faire avancer précautionneusement sur la pointe des pieds sur un sol de plus en plus encombré d'amas de gravats. Les yeux de Danforth, tout comme son odorat, s'avéraient plus acérés que les miens, car c'est lui qui, après que nous ayons traversé plusieurs arches à demi bouchées menant à des salles et à des couloirs au niveau du sol, a été le premier à remarquer l'étrange aspect des débris à terre. Les lieux n'étaient pas tout à fait comme ils auraient dû l'être après d'innombrables millénaires d'abandon, et lorsque nous avons prudemment augmenté la lumière, nous avons remarqué qu'une sorte de chemin semblait y avoir été récemment tracé. La nature irrégulière des détritus ne permettait pas d'y reconnaître des empreintes précises, mais là où le terrain était plus régulier, on aurait dit qu'on y avait traîné quelque chose de lourd. À un moment donné, nous avons cru voir des pistes parallèles, comme des coureurs. C'est ce qui nous a poussé à nous arrêter à nouveau. Et pendant cette pause, nous avons décelé l'autre odeur, tous les deux en même temps cette fois. Paradoxalement, cette nouvelle odeur était à la fois moins et plus inquiétante. Moins inquiétante en elle-même, mais infiniment terrifiante en ce lieu et dans ces circonstances. À moins, bien sûr, que Jed n'ait... Car cette odeur était celle, banale et familière, de l'essence. Je laisse au psychologue le soin de définir ce qui nous a poussés à continuer après cela. Nous savions que quelque terrible extension de l'horreur qui avait frappé le camp devait avoir rampé jusqu'à ce sépulcre ténébreux où le temps s'était arrêté, si bien que nous ne pouvions plus douter que des choses innommables se trouvaient sur notre chemin, ou tout au moins s'y étaient trouvées tout récemment. Et pourtant, finalement, notre curiosité brûlante nous a conduits à poursuivre, à moins que ce ne soit l'anxiété, l'auto-hypnose, ou bien un vague sentiment de responsabilité envers Jedney, je l'ignore. Danforth me parlait à nouveau à voix basse de l'empreinte qu'il croyait avoir vue au croisement des ruelles dans les ruines au-dessus de nous. Il mentionnait également les faibles notes musicales, potentiellement de sinistre augure s'il fallait en croire le rapport de dissection de Lake, malgré leur ressemblance avec l'écho du vent dans les cavernes sur les pentes des pics, qu'il pensait avoir entendu monter des profondeurs inconnues un peu plus tôt. De mon côté, je lui relatais l'état dans lequel le camp avait été laissé, ce qui en avait disparu, et comment la folie du seul survivant pouvait avoir envisagé l'inconcevable, un voyage précipité dans ces monstrueuses montagnes et une descente au cœur de la cité primitive inconnue. Mais nous ne parvenions pas à nous convaincre de quoi que ce soit de précis. Nous avions éteint nos lampes et, immobiles, avons remarqué qu'un vague soupçon de lumière du jour nous empêchait de sombrer dans des ténèbres absolues. Nous avons machinalement repris notre progression, allumant occasionnellement nos torches pour guider notre marche. Les gravats déplacés produisaient en nous une impression de plus en plus nette, et l'odeur d'essence se faisait toujours plus forte. De plus en plus, les ruines rendaient notre progression difficile, jusqu'au moment où nous avons dû constater que le chemin se terminait là. Hélas! Nos suppositions pessimistes au sujet de la crevasse que nous avions aperçue depuis l'avion se vérifiaient. Notre quête se terminait en queue de poisson, et nous ne pourrions même pas atteindre le niveau où s'ouvrait l'accès vers le gouffre abyssal. La torche, parcourant les murs couverts de sculptures grotesques du couloir bouché où nous nous tenions, nous révélait plusieurs portes plus ou moins obstruées. L'odeur d'essence venait très clairement de l'une d'entre elles, au point de masquer complètement l'autre puanteur. En y regardant de plus près, nous avons constaté que cette ouverture avait été récemment déblayée. Quelles que soient les horreurs qui rôdaient en ces lieux, nous savions désormais clairement quel chemin nous mènerait à elle. On ne s'étonnera pas, je pense, que nous ayons attendu un certain temps avant de reprendre notre progression. Et pourtant, lorsque nous nous sommes aventurés sous cette arche noire, notre première impression a été la déception. Car sur le sol jonché de gravats de cette crypte sculptée, un cube parfait dont les côtés mesuraient environ 6 mètres, il ne restait pas le moindre objet récent de taille instantanément discernable. Si bien qu'instinctivement, nous avons cherché des yeux une autre porte, mais en vain. Néanmoins, quelques instants plus tard, la vision perçante de Danforth avait repéré un endroit où les gravats avaient été déplacés, et nous avons allumé nos 2 torches à la puissance maximale. Ce que leur lumière nous a dévoilé était à la fois simple et dérisoire, mais je répugne néanmoins à le décrire en raison de ce que cela implique.